sais faire... je connais la vache, le chien, le chat, le serpent, le...
Les grenouilles.
Croix, croix, croix.
Les chiens.
Le lion.
Le crocodile, mais j'arrive pas à le faire.
Moi non plus, je ne sais pas faire le crocodile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une émission pour les enfants et pour tous ceux, toutes celles qui ont été des enfants un jour. À l'occasion de la dernière de cette année 2020, on voulait vous faire un petit cadeau, un florilège des plus jolis moments. Si on pratique l'anglicisme, ça s'appelle un best-of. Nous, à Barbatruc, on est peut-être bizarre, mais best-of, ça nous fait penser à bestioles. Et ça tombe bien, parce que des bestioles, il y en a plein nos histoires. Avec nos invités, nous avons parlé du grand méchant loup, de Boucle d'or et les trois ours, des trois petits cochons, du roman de Renard, de Bambi, de Babar, le roi des éléphants, du vilain petit canard, une surenchère de plumes et de poils. Des bébêtes qui parlent de vous et moi, bien sûr, comme dans les fables de La Fontaine. Ces animaux racontent les doutes, les peurs, les émotions humaines. Ces animaux aident à grandir. Appelons un chat, c'est un best-of bestiaire que je vous propose cette semaine. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et tout commence par un renard, pas n'importe quel renard. Celui-ci se termine par un thé, le roman de Renard, des histoires venues du Moyen-Âge qui sont toujours très savoureuses à lire aujourd'hui, car ce goupil est un franc-tireur, un révolté, prêt à tout pour faire un bon repas. Le roman de Renard ne fait pas la morale aux enfants, et c'est pour ça que Johann Sfar, en effrayant, il a adapté les branches en BD. Oui, on parle de branches pour désigner chaque texte de ce roman médiéval collectif, et ça donne donc la chanson de Renard de Johann Sfar chez Gallimard. Il était l'invité de Barbatruc avec Aurélie Barre, spécialiste du Moyen-Âge. Et nous écoutions un extrait du roman de Renard lu par Jean Rochefort, s'il vous plaît. Le renard meurt de faim, le voilà qui s'introduit dans un poulailler.
Il voit une des plus grosses pondeuses et d'un seul bond, il l'attrape. Puis la mange doucement. Il étrangle ensuite un chapon gras pour l'emporter à ses enfants. Il sort déjà la tête de l'enclos quand il est pris d'une très forte soif. Et il a mangé trop vite. Il aperçoit au milieu de la cour un large puits. Il ne lui faut même pas le temps d'un battement de cils pour s'en approcher silencieusement. Il observe un moment ce puits. Deux seaux pendent au-dessus de la margelle. L'un remonte et l'autre descend. Renard ne s'attarde pas et se penche vers le fond. Il sursaute brusquement car il voit en bas un autre goupil. Il s'agit sûrement d'Hermeline, sa femme. Renard, étonné, l'appelle.
Que fais-tu là, Hermeline? Tu n'es pas à la maison?
Moi? Je cherchais de la nourriture, il y en a plein par ici.
Renard, surpris par le discours de sa femme, se penche pour mieux entendre et mieux s'expliquer. Il met une patte dans le seau et enjambe la margelle. Oh, patatras! Le voilà qui descend brusquement avec le seau au fond du puits, où il ne trouve pas plus d'Hermeline que de beurre en broche. Eh, c'est l'écho qui l'a trompé. Il commence à grelotter. La nuit tombe doucement. Il appelle de toute la force de ses poumons. Et devines-tu, ami, qui s'approche doucement du puits? C'est Isengrin. Isengrin qui regarde à son tour dans l'eau et observe en grognant son reflet aux côtés de Renard.
Le roman de Renard raconté par Jean Rochefort aux éditions Frémaux. Aurélie Barre, elle est étonnante cette histoire, très fantastique finalement. Le renard parle à son reflet, il parle à son écho aussi dans le puits.
Oui, c'est une branche incroyable, la branche du puits, qui remonte bien entendu à Narcisse, donc qui a été racontée par Ovide dans les Métamorphoses. Et donc alors que Narcisse se regarde lui et entend la voix d'écho, qui l'appelle et lui répond. Renard, lui, se penche et se voit au féminin. Il se voit en sa femme Hermeline, et lorsqu'Isengrin s'approchera du puits, il se verra lui aussi sous les traits d'Hersan. Et en voyant Renard avec Hersan, bien entendu, cela éveille sa jalousie. Et donc, cette fable, c'est incroyable, parce qu'au fond du puits où Renard, finalement, pourrait trouver le feu de l'enfer, et c'est bien ce dont il est menacé régulièrement, comme d'ailleurs dans la chanson de Renard de Johann Svar, il y a là de l'eau. Et cette eau-là, on a l'impression, c'est comme si elle le baptisait pour le faire advenir à la parole rusée, grâce à laquelle il va tromper Isengrin et l'inviter à descendre au fond du puits.
Voilà, Isengrin va être victime du même piège, hein, va se retrouver à parler à son reflet dans l'eau, va aussi tomber dans le puits. Et c'est toujours le renard qui s'en sort à la fin, Aurélie Barre.
Toujours, toujours. Quelle que soit la fable, puisque la fable du puits ou la branche du puits, c'est finalement un schéma qui revient chez La Fontaine et d'autres. Et à chaque fois, bien entendu, le renard est victorieux.
C'est une histoire d'aujourd'hui également pour vous, Johann Svar.
C'est une histoire. Vous savez, il y a un an, comme quoi il m'a fallu 30 ans, une jeune lectrice m'a dit mais monsieur Svar, finalement, les bandes dessinées, est-ce que c'est fait pour être dit à l'oral? Et quand on entend les branches du roman de Renard, c'est exactement ça. Ce sont des récits qui sont faits pour être racontés à un public. Et quand on entend Renard et le loup, ça fait tellement penser à Guignol et aux gendarmes qu'on fait encore aujourd'hui dans les jardins publics. J'essaie de retrouver cette simplicité en bande dessinée et j'y parviens pas parce qu'il y a une pureté dans ce récit-là. Il y a le jeu avec le reflet, il y a le jeu avec la tromperie, avec la femme de son copain. Il y a l'idée aussi de l'apprentissage des choses physiques, c'est-à-dire on va tomber, on va grimper, presque comme dans un Tom et Jerry. Donc je rêve d'être capable de cette simplicité-là dans mes récits. J'ai l'impression que j'en suis pas encore capable.
Quelque chose que vous avez gardé, Johann Svar, de l'original, c'est le langage qui est très châtié. On sent que vous vous régalez d'anachronismes, notamment quand le loup rentre chez lui dans votre BD et qu'il découvre son enfant, un petit louveteau accroché à une rôtissoire, et le renard qui s'apprête à manger ce pauvre louveteau, la femme du loup lui dit « Mon époux, je sais que renard est votre ami, mais cette fois il va trop loin. » il rigole à ses propres blagues, ça c'est génial. Le loup à regret en convient, écrivez-vous, et il s'écrit « Mais renard, tu es zinzin ?»
Non, ce qui me fait rigoler, c'est de faire une BD pour enfants où il y a deux copains, dont un des deux essaie de manger les enfants de l'autre.
Là,
je suis assez content de moi.
Le langage châtie, en tout cas, ça fait partie du plaisir du roman de renard.
Oui, et puis moi j'emploie un faux langage du Moyen-Âge, c'est-à-dire que je m'amuse avec ma propre bêtise quand il est question du Moyen-Âge, je mélange toutes les époques, je sais même pas ce que je fais, mais plus c'est grave, plus je les fais s'exprimer bien, ça m'amuse.
Le renard est un personnage très complexe. On va retourner voir les enfants et les adolescents à qui Juliette Proutot a tendu son micro, masqué bien sûr et à bonne distance, avec cette question, à quoi ça te fait penser, un renard ?
Ah bah la ruse, le renard, je pense directement à la ruse.
Oui, parfois c'est des gentils, parfois c'est des méchants.
Ouais. De jouer des tours, d'être un peu menteur sur les bords, c'est un peu ça les renards. Un peu manipulateur, ouais.
Ouais, moi je dirais le renard c'est celui qui joue avec les règles. C'est pas celui qui est foncièrement mauvais, foncièrement gentil. C'est celui en fonction de la situation qui va pouvoir s'adapter et jouer un peu avec les éléments qui l'entourent.
Le renard, il a un côté un peu mignon aussi.
Un renard, c'est méchant et c'est surtout très furtif. Ils sont intelligents.
Et aussi, il me fait peur un peu. Moins peur que le loup.
C'est comme un loup, mais en fait, c'est pas de la même couleur.
Ouais, j'aime surtout la fourrure de la queue au renard.
Moi, j'aime ça. Tout parce qu'il est malin.
Oui, c'est l'animal le plus malin pour moi.
Parce que le loup, il est un petit peu bête.
Non.
Et le renard.
Ouais, je trouve que le loup, il est très intelligent sur la vie commune avec les meutes par rapport à un renard, par exemple. Mais sur une intelligence, on va dire, si on devait plus s'en sortir tout seul, solitairement, je pense que ce serait plus un renard qu'il ferait qu'un loup.
Bah, le renard, c'est mon animal préféré, puisque dans toutes les histoires, le renard, il est plus intelligent que le loup.
De ce qu'on nous a dit dans toutes les histoires, un loup, c'est... Enfin, ça mange les enfants, comme ils disent, et ça mange les grands-mères, etc. C'est plus sauvage que les renards.
Mais pourquoi diable faudrait-il choisir son camp entre le renard et le loup ? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Aurélie Barre. Je me demandais si l'imaginaire collectif autour de cet animal, le renard, hein, bestiole rusée par excellence, est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça vient du roman de Renard ?
En fait, ça vient aussi simplement de l'observation de l'animal. Mmh. Parce que les clercs ou les conteurs qui ont écrit au sujet de renards et qui en ont fait un personnage, se sont d'abord basés sur des observations donc animales et éthologiques. Et du coup, on sait que le renard, c'est le seul animal qui est capable de faire le mort, par exemple, pour attraper des oiseaux. Comme dans le roman de Renard, il le fera. C'est aussi un animal qui est capable d'éviter un piège, qui s'apprivoise très bien. Donc il y a une familiarité avec le renard, et cette familiarité, elle permet une certaine sympathie donnée à l'animal, et une sympathie qui n'est pas portée sur le loup, puisqu'il y a aussi au Moyen-Âge la très grande peur du loup.
Johann Sfar, vous choisissez-vous votre camp entre le loup et le renard ?
Bah, pour moi c'est un peu pareil, c'est très beau ce que vous dites sur l'observation, parce que moi j'ai un chien depuis 2 ans, et c'est depuis que j'ai ce chien que je dessine un renard et un loup, puisque ce sont des canidés, donc j'ai un peu délaissé les chats. Chez moi c'est la même chose, il y a l'observation du réel à la base, et c'est vrai que pour un dessinateur, un chien, un renard, un loup, c'est le même squelette, c'est la même manière de développer son corps. Ensuite, il y a des caractères secondaires qui interviennent.
Qu'avez-vous gardé du vrai roman de renard dans cette bande dessinée ?
L'absence de morale. Je crois que si on fait travailler les enfants sur une fable de La Fontaine et sur une branche du roman de Renard, en arrivant au roman de Renard, ils vont avoir un sentiment de vide à la fin du récit, parce qu'ils vont dire « mais après tout, ça a servi à quoi ?» Et c'est dans ce vide-là que va peut-être se forger l'esprit critique ou l'esthétique enfantine, et je crois que ce vide est important aujourd'hui.
La chanson de Renard, premier tome de ce qui sera sans doute une longue série de Johann Sfar, disponible chez Gallimard. Je signale aussi que Johann Sfar vient de sortir un jeu de société, un jeu de rôle plutôt. Ça s'appelle Monstre au pluriel. Alors vous l'avez entendu, on donne la parole aux enfants dans Barbatruc. Nos reporters leur tendent le micro chaque semaine et leurs mots sont souvent pertinents, justes, émouvants, drôles. Mais il y a du montage, parce que parfois, les enfants ne veulent pas répondre à nos questions. Voici l'envers du décor.
Est-ce que ça vous fait penser à autre chose, le renard ? Un truc auquel j'aurais pas pensé ?
Ça me fait penser à une histoire quand j'étais à la crèche.
À quoi comme histoire ?
Aux galettes. La galette, elle disait non. Écoutez ma chanson. Oh, je suis la galette. Je suis faite avec le biais, ramassée par le gommier. Bonjour, nos enfants, mais j'ai mis envie de courir. Après, il court, et il voyait un ours. Après, il dit, galette, est-ce que je peux te manger ? Il disait, non. Et il coupe plutôt ma petite, je suis la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée par le gonier. Un homme aux enfants, faut dire, mais j'ai plus en mieux courir. Écoute ma petite chanson. Je suis la galette. Viens sur mon oreille. Il dit, je suis la galette. Et après, il mange.
C'était super!
Et merci pour cette galette. Reportage, Juliette Proutot.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
Charlie drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was built in to his body, heart so soft. Something for once. much forever. It won't hurt so much. Won't hurt so much forever. It won't hurt so much. Won't hurt so much.
C'était Arlo Parks sur France Inter. On écoute les meilleurs moments de Barbatruc cette semaine. C'est un best-of bestiaire avec tout plein d'animaux. Et voici que s'avancent les trois ours, papa ours, maman ours et bébé ours, dont la maison est visitée par Boucle d'Or. La romancière Faizagen était mon invitée aux côtés d'une psychologue, Amalini Simon. Faizagen garde un souvenir très précis de cette histoire qu'on lui racontait quand elle était petite.
Mes parents ils nous ont pas raconté beaucoup d'histoires, ni des frères Grimm. On a entendu beaucoup d'histoires traditionnelles. Mais un jour, il nous raconte Boucle d'Or et Trois Ours à sa façon. Donc dans sa bouche, le papa ours rentrait du chantier.
Okay.
Mon père travaillait sur les chantiers, évidemment, il était maçon. Et il nous l'a raconté justement d'une manière un peu détournée, de manière un peu parodique. Et ça donnait ça, ça donnait le papa ours qui rentre fâché et affamé du chantier et qui trouve que sa soupe, elle a été entamée. Il me l'a raconté avec ce truc de c'était une intrusion dans cette famille.
On comprend mieux pourquoi vous la détestez, Boucle d'Or.
Bah ouais. Et qui, évidemment, la soupe se transforme en couscous dans l'histoire de mon père. Donc il y a tout un truc un peu aussi, voilà, où il mettait un peu de sa culture à lui dans cette histoire. Du coup, qui me l'a fait entendre toujours autrement, encore aujourd'hui.
Et comment ça se terminait?
Ça se terminait par le père qui veut poursuivre Boucle d'Or par la fenêtre, mais qui, en tombant par la fenêtre, se casse une jambe. Ah.
Et pas de violence, du coup.
Non, du coup, il est arrêté par sa fracture, donc tout va bien.
Tout va bien. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes devenue écrivaine, Faizagen, ces récits de votre père?
Oui, de mon père, de ma mère. D'ailleurs, c'est beaucoup les femmes qui racontaient des histoires, davantage, en vrai. Je suis certaine qu'on porte quelque chose qui est avant nous. Moi, je suis très intéressée par tout cet aspect de la psychogénéalogie, de ce qu'on n'a pas forcément mis en conscience, mais qu'en tout cas, qui est à l'intérieur. Et quand on a écouté des récits, moi j'avais une grand-mère et des tantes âgées qui nous racontaient des histoires. Quand on était au village, on allait en vacances en Algérie dans la famille. Et c'est quelque chose qui m'a fascinée. Donc je sais que pour moi, raconter des histoires, c'est... Moi, j'ai un outil qui est différent d'eux, qui est l'écriture. Mais en tout cas, c'est une continuité, je pense.
Et vous laissez une trace.
Ouais, aussi, aussi.
Amalini Simon, les histoires qu'on nous raconte, nous fabriquent. Si par hasard, on avait un doute, voilà qui vient le confirmer.
Tout à fait, ces histoires-là sont importantes, mais parfois ça manque de mots. Alors Faïza, elle dit qu'elle a eu la chance d'avoir un papa qui raconte des histoires, des... Voilà, moi je pense à beaucoup de familles que moi je rencontre qui n'ont pas le temps, qui partent très tôt, qui rentrent très tard, qui ont parfois pas la langue aussi. Parce que les enfants qui sont nés en France, ils parlent français, et les parents ne maîtrisent peut-être pas la langue.
Et parfois ils s'interdisent. Qui va manquer aux enfants dans ce cas-là?
Ouais, qui s'interdisent, et souvent on entend encore à l'école des gens dire il faut pas parler dans votre langue. Mais si on dit ça, ça veut dire qu'on interdit aux parents, enfin, qu'on ne leur permet pas de raconter ces histoires, on leur dit, alors qu'on sait à quel point c'est important. Alors nous, en clinique transculturelle, c'est très important pour nous de dire, parlez dans votre langue maternelle, racontez-lui des histoires. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit, c'est-à-dire qu'ils se disent, on est en France, on n'a pas le droit de parler notre langue maternelle, on n'a pas le droit de transmettre notre culture. Et quand on les accompagne et qu'on est avec eux, et c'est ce que nous on fait en consultation souvent, et ils ont plein d'histoires à raconter, sauf que trouver les mots n'est pas facile, et ils ont besoin d'être accompagnés.
Une autre hypothèse, et si c'était une histoire pour apprendre à partager ses affaires? Après tout, papa ours, maman ours et bébé ours peuvent bien prêter leur bol, leur fauteuil et leur lit à Boucle d'Or. Partager, c'est un truc que les enfants adorent faire en général.
Bah, j'ai une boîte avec des trucs précieux dedans, alors ça, non, j'aimerais pas trop qu'on me touche.
Moi, avec mon frère, je partage tout à part les jeux vidéo, parce qu'il me fait perdre tous mes niveaux.
Moi, j'aime bien partager. Je partage tout, normalement.
Oui, c'est bien de partager, mais je pense qu'il faut d'abord demander la permission au lieu de se servir comme ça.
Ben, j'ai une grande sœur, mais le truc, c'est qu'elle vit au Cameroun, elle vit pas avec moi. Et en fait, au contraire, c'est elle qui ne veut pas partager avec moi. Il y a des trucs qui sont peut-être pas de mon âge, hein, je sais pas.
Ben, ça dépend. Si je devrais prêter ces objets à des petits, je sais qu'ils vont pas vraiment prendre très attention, donc dans ce cas-là, non.
Du Lego, parce que c'est fragile. Mais sinon, non. Ça m'embête pas le protection. Parce que en plus, j'en ai des milliers et des milliards des choses. Donc, des choses que à l'école ou des choses comme ça, je dirais non.
Mes doudous, bah parce qu'ils sont à moi.
On ne touche pas à mes livres. C'est vraiment mes jouets et mes livres. Jusqu'à aujourd'hui.
Genre mes affaires de l'école, genre mes livres. Quand les gens ils sont absents, ben, je dois leur donner pour qu'ils se mettent en ordre. Ben, je partage ça.
Si c'est des gens de mon âge, je pourrais. Enfin, ça dépend, je trouve la vérité, la valeur des choses, etc. Mais si c'est quelque chose que vraiment c'est important pour moi, c'est que pour moi. J'ai encore des Barbies chez moi. Je dois avouer. Donc les Barbies, pour moi, c'est, je les ai encore et elles sont pas abîmées, les cheveux, tout ça. Donc ça, je prête pas.
Moi, je dirais presque tout parce que enfin, mes soeurs, elles sont hyper intrusives. Donc je veux presque jamais rien partager.
Enfin, oui, moi aussi j'ai des sœurs, j'ai une sœur, j'ai pas envie qu'elle touche à mes affaires, mais enfin, après si elle prendra, je serai pas non plus vraiment fâchée. Mais je préfère qu'elle me le demande.
Moi je viens de recevoir une BD, ma sœur elle l'a déjà piquée le jour d'après, et c'était, voilà. J'ai dû aller la prendre dans sa chambre et repartir en lui criant dessus.
C'est vrai que dans maintenant, si quelqu'un rentre dans ma maison et se balade et touche un peu à tout, bah, c'est un peu bizarre.
Oui, c'est un peu bizarre ce que fait Boucle d'Or, effectivement, chez les trois ours. Je voudrais le regard de la psychologue Amélie Simon. Qu'est-ce qui se joue dans la difficulté fréquente chez les enfants à prêter ses affaires?
Mais les enfants l'ont très bien dit, là. Il y a des choses qu'on peut partager, qu'on peut prêter. Et puis, il y a des choses.
Surtout pas le doudou.
Voilà, il y a des choses qui sont un peu intimes, très intimes, en fait. Et là, on n'a pas trop envie parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut partager de l'intimité? Qu'est-ce qu'on peut pas? C'est pas simple. Et je pense que c'est bien que les enfants puissent savoir qu'il y a certaines choses. C'est ces enfants qui disent, bah, ça, je veux bien le prêter, mais ça, non, parce que c'est trop proche de moi. C'est pas mal qu'ils aient ce regard-là.
Voilà aussi ce qu'apprend cette histoire, Faiza Ghen.
Oui, le partage, mais ce que j'ai entendu aussi des témoignages des enfants qui était intéressant, c'est que l'une d'entre elles dit il faut demander la permission. En fait, c'est ce qui change tout, je pense. Moi, je regrette un peu qu'elle ait pas dialogué, parce qu'en fait, manger la soupe, s'asseoir sur la chaise et s'allonger sur le lit, c'est ok, mais quand on voit les gens face à face, on est sidéré et on s'en va en courant parce qu'on a peur d'eux. Je crois que s'il y avait eu un dialogue, j'aurais pu s'accepter.
Vous l'auriez sauvé.
L'intrusion. Voilà.
Bruno Bettelheim, auteur du célèbre ouvrage Psychanalyse des contes de fées, était franchement déçu par cette histoire. Quand elle se termine, écrit-il, il n'y a ni guérison ni réconfort, aucun conflit n'est résolu et il n'y a pas de conclusion heureuse. C'est vrai que le dénouement de ce conte est un peu frustrant, à Malénie Simon.
Oui, tout à fait. Je m'étais fait la même remarque que Faïza, c'est-à-dire que elle est partie, elle a eu peur de l'inconnu. Puis un ours, quand on dit je rencontre un ours, c'est effrayant en fait, en vrai. Et c'est vrai qu'on reste sur notre faim, on se demande voilà, qu'est-ce qui serait passé si elle avait discuté. Peut-être que, comme les ours ont l'air sympathiques, elle aurait peut-être eu une autre place.
Mais tant mieux, non, s'il ne reste que des questions au terme de l'histoire.
Des questions, et ça nous permet aussi de trouver nos réponses à nous. De se dire, moi j'aurais fait ça.
Et si on inventait une meilleure fin, là tout de suite, ça donnerait quoi, Faiza Ghen?
Ça donnerait déjà, je suis désolée les gars, j'ai pas assuré, j'aurais dû attendre de votre retour pour manger, pour m'asseoir sur le lit. Et puis ils l'auraient invité forcément à leur table, c'est certain, ils auraient peut-être discuté au coin du feu.
Ça se termine par un banquet, comme dans Astérix.
Je suis assez d'accord, j'aurais fait discuter, je me serais excusée.
Ah, mais vous êtes pas boucle d'or hein,
Non, je suis pas boucle d'or, mais je me reconnais dans ce personnage aussi. Et oui, j'aurais fait boucle d'or, se serait excusée pour
elle se serait
cette
excusée
intrusion.
Et aurait été invitée à dîner. Également.
Oui, sûrement.
Sans repentance, quoi, juste tranquille, quoi, des excuses.
Ah oui, pas d'autoflagellation non plus, s'il vous plaît. Le dernier roman de Faiza Ghen, La discrétion, est à lire chez Plon.
Smile, breathing in deep, gliding with style. Sometimes I just wanna feel.
Nous écoutions Polo et Pan, Feel Good. Oui, on se sent bien. Non, ce n'est pas un bêtisier. Disons que c'est du bonus. Je voulais vous faire entendre les reportages que nous ne diffusons pas d'habitude. Parce que les enfants ne répondent pas toujours à la question qu'on leur pose. Ceux-là, par exemple, rencontrés par Juliette Proutot au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Boucle d'or et les trois ours, franchement, ça les inspirait pas du tout.
Moi, je trouve que je pense que c'est pas un confinement dans le Buttes-Chaumont.
C'est pas un confinement ici ?
Non, parce qu'il y a beaucoup trop de monde.
Alors, le week-end, c'est rempli de gens.
Ils mettent presque même pas leur masque, n'importe quoi. Donc, je pense que bientôt, ils vont fermer les parcs.
On a une bonne nouvelle pour vous. Parce que la France, c'est pas terrible que ça. Et on peut faire 1 mètre de distance parce que à cause du coronavirus.
Eh ben, tu vois, je pourrais, c'est vraiment très très un beau honneur de participer à l'émission Barbatruc parce que, j'aimerais bien devenir journaliste un jour. Je vous passe mon frère.
N'oubliez pas les règles d'hygiène et à bientôt. Au revoir.
Voilà, tout ça c'est à cause du coronavirus, t'as bien raison. Connaissez-vous l'inventaire de Jacques Prévert ? C'est devenu une expression, hein, on parle d'inventaire à la Prévert, en référence à l'un de ses poèmes dans le recueil intitulé « Paroles ». Voilà ce que ça donne. Une lame de fond, un pantalon, une porte avec son paillasson, un monsieur décoré de la Légion d'honneur, un raton laveur. Et ouais, dans ce poème, tout finit toujours par un raton laveur. Alors, je suis un peu déçue, parce qu'il n'y en a pas dans notre bestiaire. J'ai donc trouvé ma résolution en 2021, l'année prochaine, plein de ratons laveurs. Notre bestiaire est riche néanmoins, on y trouve aussi 3 petits cochons. C'est une histoire que Pénélope Bagieu adore, alors je l'ai invitée dans l'émission. Vous connaissez le scénario, hein, 3 cochons, une maison en paille, une maison en bois, une maison en briques et un loup qui souffle très fort. Pénélope Bagieu, autrice et dessinatrice, était en studio aux côtés d'un philosophe, Gilles Tiberghien. J'ai demandé à ce dernier ce que lui inspirait le personnage du loup dans cette histoire.
C'est un personnage qui m'est assez sympathique en fait, parce que il présente la part de risque des choses dans la vie, c'est-à-dire que il est celui qui est le trouble fait, celui qui met en danger et celui qui oblige à imaginer des choses.
Ce souffle, c'est ça qui est impressionnant. Il a du souffle, ce loup, Pénélope Bagieu.
Oui, le loup, ce qui est bien, c'est qu'il est capable de tout selon les histoires. C'est toujours le même loup, mais il est très pratique pour finir le boulot des parents, quoi. Je sais pas, la maman du petit chaperon rouge. L'envoie dans le bois faire un truc complètement idiot, mais c'est pas grave, le loup va lui servir de leçon. Là, la mère met ses enfants dehors, mais bon, elle se doute bien qu'il y a un loup aussi. Mmh. Il est assez polymorphe, quoi.
Il est très polyvalent.
Ouais,
beaucoup de compétences. Mmh. Que vous inspire ce souffle exceptionnel du loup ?
Ce qui est amusant, c'est quand on est enfant, on le questionne pas du tout. C'est qu'on se dit, logique, il souffle sur une maison, elle s'envole. Bon, ça reste un loup, quoi. C'est un gros chien, quand même. Mmh. Mais il peut souffler sur une maison en bois, et elle s'envole, et personne n'a jamais questionné cette... Ce qui, d'un point de vue de la physique, je pense, est quand même...
Oui, parce que c'est un personnage aussi très symbolique, en fait. Le souffle du loup, c'est la précarité des choses, quoi. En gros, il incarne ça. Mais c'est vrai qu'enfant, en effet, le souffle, c'est quoi ? C'est peut-être l'alliance des forces naturelles malignes, soudain, qui sont alliées à, je sais pas quoi, une puissance qu'on sait pas laquelle. On sait pas laquelle, quoi. C'est le mal.
C'est quelque chose aussi que les enfants aiment beaucoup faire. Hein. Retenir leur respiration longtemps dans le bain, par exemple, se chronométrer en apnée. Le souffle inspire beaucoup les plus jeunes. Gilles Tiberghien.
Oui, le souffle, c'est... les stoïciens disent, c'est le pneuma, c'est l'âme. C'est le souffle vital, quoi. La philosophie chinoise aussi pense comme ça. Et il y a quelque chose de cette vitalité chez le loup, qui est en même temps un principe de mort, puisqu'il est, ce qui va détruire théoriquement la vie et prendre cette vie. Donc il y a une ambivalence chez le loup qui est intéressante, en fait.
Vous tenez longtemps sans respirer, Pénélope Bagieu, combien de secondes ?
Maintenant, en vieillissant, je continue à avoir un bon entraînement à l'apnée, mais il y a aussi, c'est dans Astérix, le fils de Soupalognon et Crouton, qui menace en permanence d'arrêter de respirer. Et d'ici, ça continue, je retiens ma respiration. Vous vous souvenez
ça, c'est une menace.
Non, je me souviens pas. Incroyable comme pouvoir quand on est enfant.
Pensez-y, les enfants.
Les enfants, menacez vos parents d'arrêter de respirer. Ça fonctionne très bien.
Allez, on écoute la suite de l'histoire. Toujours avec Mathieu Cabiac du théâtre El Duende.
Au secours ! Crièrent les 2 petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère.
Ici, vous ne risquez rien, leur dit-il. Bientôt, la voix du loup résonna. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?
Non, non, par le poil de nos mentons !
Alors, vous allez voir, hurla le loup. Je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis, il s'enfuit dans la forêt, hurlant de douleur. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons !» se disait-il. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt !» dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde, et il repartit comme il était venu, par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui.
Alors, je dois dire que c'est ma version préférée parce que dans cette version-là, des trois petits cochons, personne ne mange personne. Tout le monde s'en sort sain et sauf, les trois cochons et le loup. Construire sa maison, éprouver la solidité de sa maison. Quel est l'enjeu de tout cela à hauteur d'enfant, Gilles Tiberghien ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une chose que j'aime bien, moi, dans cette histoire, c'est la solidarité des frères. Mais pas que ça, c'est-à-dire les hommes qu'ils rencontrent, ces cochons, leur donnent spontanément les matériaux dont ils ont besoin. Mmh. Et ça, c'est une belle histoire, je trouve. Il y a comme ça un échange possible, il y a une communauté, quoi. Bien sûr, ça rassure, on a besoin souvent de pouvoir s'abriter, d'être confortablement quelque part, le monde est risqué éventuellement, mais en même temps, ce qui me plaît moins dans l'histoire, c'est que justement, pour revenir à mes cabanes, mais c'est que la maison solide, elle est un peu morale, quoi. C'est-à-dire qu'on va être quelque part une bonne fois pour toutes, et puis on y arrivera et on va s'installer. Et il y a un côté presque embourgeoisement de la maison, quoi. C'est on va plus rien risquer, on y sera et puis basta, quoi. La vie est une sorte de progrès tranquille vers lequel on tend et enfin on est un adulte, on a sa maison, on a son confort et voilà, c'est solide, quoi. Et c'est pas très glamour, je trouve, comme perspective.
Il y a aucune poésie de la fragilité, Pénélope Bagieu, dans cette histoire.
Moi, c'est marrant, j'ai une vision en miroir de ça. C'est que pour moi, les trois petits cochons, en gros, ça dit quoi ? Il y a des frères qui disent pas de problème, moi je vais faire ma maison en paille, en bois, qui sont un peu plus malins que leur frère, qui est le frère un peu chiant, qui est celui qui dit « bah oui, bah moi je vais faire de la brique, et c'est sûr que c'est moins marrant, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle ». Il fait sa brique, et pour moi il y a un truc très « la cigale et la fourmi », mais sans rancune, quoi. C'est-à-dire les frères sont insouciants, à la fin ils se retrouvent comme de... voilà, parce que leur maison est terminée, ils se disent « bah heureusement il reste notre frère qui lui avait pensé dès le début à mettre de la brique, et on avait trouvé ça un peu... »
Mais c'est un peu le danton de la farce, le troisième cochon.
Oui, mais là où par exemple la fourmi dit à la cigale « ah bah oui ma grande, mais t'as chanté tout l'été, tant pis pour toi », là le cochon dit « bah oui, bah entrez, évidemment que vous pouvez venir chez moi. »
Il en faut bien un qui fasse ce boulot, voilà.
Et pour moi, il a un peu la charge mentale de la fratrie, quoi. C'est-à-dire, ce serait possible que ce soit une sœur pour moi, le troisième cochon. Et qui, du coup, c'est la même histoire pour moi, mais moins de droite, en fait, que la cigale et la fourmi. C'est-à-dire de dire, même si finalement, on partage, et puis on va pas vous dire, ça, mes cocos, il fallait travailler. Donc, je trouve qu'au contraire, oui, effectivement, il y a un embourgeoisement dans le sens où finalement, la seule maison qui soit une vraie maison, c'est celle qui est solide et qui est en briques. Ouais. Mais en même temps, il y a un côté assez communautaire, quoi.
Barbatruc. Dorothée Barba sur France Inter.
Un renard, trois ours, un grand méchant loup, trois petits cochons. Il est joli, notre bestiaire, pour l'instant, mais ça manque un peu de plume. Accueillons, s'il vous plaît, le vilain petit canard. Arnaud Valois, le comédien rendu célèbre par son rôle dans 120 battements par minute, était mon invité dans Barbatruc parce qu'il a réécrit cette histoire. Il a publié un magnifique livre CD chez Gallimard Jeunesse. La musique qui accompagne le disque est signée Étienne Dao. Écoutons la toute fin de cette histoire revisitée.
Jusqu'à ce que le premier rayon de soleil du printemps vint l'effleurer, doux, doré, l'intuition que la nature allait renaître lui donna la force de sortir de sa cachette. Mais le craquement d'une branche sèche le fit sursauter. Il s'étonna de se voir sorti des roseaux en un simple saut. C'est alors que, tout doucement, il prit conscience de la nouvelle puissance de ses ailes. De petits sauts en large bond, il réalisa qu'il volait, et il rit comme lorsqu'il avait découvert le bonheur de nager. Sans effort, il alla se poser sur un étang sublime non loin de là. Le soleil rasant du matin faisait scintiller la rosée, et c'était toute la nature qui sortait de sa torpeur autour de lui. Il pouvait voler. Une vision féerique vint détourner son attention. Les cygnes étaient de retour sur l'étang. Ils gonflaient leurs plumes d'un blanc pur et s'ébrouaient, s'éclaboussant dans le soleil. Plus rien d'autre n'existait que ces oiseaux magnifiques. Le petit canard n'était plus un enfant. Il pouvait imaginer l'incroyable périple qu'ils avaient vécu pendant leur migration hivernale. Voyager tous ensemble aux quatre coins du monde et se sentir beau et fort dans les yeux des siens, comme ils le sont dans les vôtres. Quel bonheur indicible que celui de partager à la fois la nature et la liberté. Mâles et femelles étaient tout aussi beaux et forts et vivaient côte à côte dans le respect. Il les admirait de loin et la façon dont ils s'aimaient l'émut tellement qu'il se dit « Ces animaux ont bien plus de beauté que celle que chacun peut voir. J'ignore comment, mais je le sais. Le je ne sais quoi, eux, ils l'ont trouvé. » À cet instant, rien n'avait plus d'importance pour lui que de les approcher. Il le battrait sûrement d'être si présomptueux, mais il le fallait. En nageant vers eux, il courba l'échine en signe de soumission, penchant la tête en avant dans l'espoir d'être épargné. C'est dans cette position qu'il aperçut son reflet sur l'eau de l'étang. C'était incroyable, inespéré. Le vilain petit canard n'était plus. L'hiver l'avait remplacé par un noble cygne au plumage superbe. Il fut si étonné et si fier qu'il se redressa, tendit son long cou et écarta ses larges ailes. Il vit les cygnes venir vers lui et cette fois, il ne fuit pas. Il comprit. Submergé de bonheur, il devint ce qu'il avait toujours été, l'un des leurs. Il avait trouvé sa place parmi les siens. Tout était parfait. Il sentait la paix l'envelopper. Il aurait pu être ailleurs en vérité, car son bonheur était intérieur. Plus que tout, il avait eu le courage d'être lui-même, mais aussi de se trouver. Les cygnes l'entourèrent et l'admirèrent. Le plus âgé d'entre eux s'avança et lui dit
« Sois le bienvenu. »
On a reconnu sa voix, c'était Étienne Dao. Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
Quel plaisir de vous avoir au bout du fil, merci beaucoup d'être là. C'est vous qui signez la musique de ce spectacle et de ce livre. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de composer pour les enfants?
Je trouve que dans une discographie qui se tient, il y a un disque pour enfants. J'avais envie de faire un disque pour enfants depuis longtemps. Bon, j'avais été aussi influencé par des classiques français comme Pierre le Loup, Le Petit Prince, bien sûr, qui sont vraiment des espèces de monuments lus et comptés par Gérard Philippe. Pierre le Loup par Bowie aussi. Il y a comme ça des grandes œuvres pour enfants. Et je trouve que c'était bien de passer par là. Et quand j'ai rencontré Arnaud, le projet est né assez spontanément. Je trouvais que c'était parfait comme association. Et tout a été très, très fluide quoi, avec lui. La manière qu'il a eu de réécrire avec Héloïse, ce conte, c'était parfait, c'était très moderne, très philosophique. Ça dit beaucoup de choses de l'époque aussi.
On a tous pleuré en écoutant la fin de cette histoire. Quel effet ça vous fait à vous de l'entendre?
Ah, j'étais emporté parce qu'en fait, ça fait quelques mois déjà qu'on a fini ce disque, donc je l'avais pas réécouté, de l'écouter comme ça, en plus à la radio. Mmh. Ça fait vraiment beaucoup d'effet, puis ça rappelle aussi plein de beaux moments de cet enregistrement qui ont été vraiment des grands moments de fou rire aussi, hein, beaucoup marré. Et on était aussi très très concentrés. C'était vraiment comme un moment, une espèce de bulle un petit peu particulière. C'était très très fort comme moment.
Arnaud Valois, Opine du Chef pour les fous rires. Vous allez bientôt le jouer sur scène, ce vilain petit canard. On s'envole à la fin, Arnaud Valois ?
On s'envolera peut-être. Si vous êtes sage.
C'est le lac des cygnes, s'il vous plaît. C'est Billy Elliot. On s'envole à la fin.
On s'envole déjà rien que par la pensée. Avec tous ces musiciens, quatre musiciens sur scène avec moi. Donc ça sera assez incroyable.
Étienne Dao, vous avez des souvenirs d'enfance autour de cette histoire ?
Oui, je pense qu'on s'est tous identifiés au vilain petit canard à un moment donné. Hein. Je connais peu de gens dont la sensibilité n'a pas été touchée par ce conte, parce que ça raconte l'histoire de tout le monde. Ça raconte l'histoire de la normalité, du combat que tous les enfants font pour pas dépasser d'une tête et être normaux, alors que cette normalité n'existe pas, c'est complètement fictif. Et que tout le monde se pourrit la vie avec quelque chose qui n'existe pas, quoi.
Vous savez ce que j'ai envie de lui dire, moi, à ce pauvre vilain petit canard ? Que tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de sa vie.
Oui, c'est vrai que ça a du sens avec ce conte. Exactement.
Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Étienne Dao, à très bientôt sur France Inter.
Merci à vous.
Bonne
Merci.
Journée, au revoir.
Au revoir.
Barbatruc.
Une émission de Dorothée Barba sur France Inter.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, le premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Confidentiel.
premier jour, Étienne Dao sur France Inter. Le vilain petit canard, revisité par Arnaud Valois, Héloïse Chouraki et Étienne Dao, est vivement recommandé. C'est un livre CD chez Gallimard Jeunesse. Il est bientôt l'heure de retrouver Denis Chessou pour L'As-tu lu mon petit loup, l'actualité du livre pour enfants. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un DJ devenu conteur pour enfants. Ah ouais, des platines aux comptines, il n'y a qu'un pas. Martin Solveig, célèbre pour sa musique électronique, s'est lancé dans les histoires pour enfants. Il a créé une application, Alma Studio. La très bonne idée de cette appli, c'est l'écran noir. Une fois qu'on a choisi l'histoire à faire écouter aux enfants et qu'on la lance, l'écran du téléphone devient noir automatiquement. Aucune image à regarder, tout passe par les oreilles. Côté casting, Gad Elmaleh, Virginie Efira ou Gérard Jugnot lisent et interprètent les histoires. Ma préférée, c'est Loup Gris, lu par François Rollin.
Un matin, Loup Gris s'aventure dans un village. Il renifle sous un pont, renifle dans les rues, longe les murs des maisons. Soudain, Loup Gris aperçoit un énorme pot.
Tiens, tiens, y a quoi là-dedans? Quelque chose à se mettre sous la dent.
Et hop,
hop,
il saute sur le rebord du pot, mais zou, il glisse et plouf, tombe à l'intérieur. Dans le pot, c'est comme de l'eau. Loup Gris donne des coups de patte, tente de remonter, glisse à nouveau. À bout de souffle, il parvient enfin à sortir. Dans le pot, c'était de la peinture bleue.
Pouah !
Loup Gris est devenu tout bleu, du museau jusqu'au bout de la queue.
Les musiques sont composées par Martin Solveig. Alma Studio est recommandé pour les enfants de 3 à 10 ans. Et figurez-vous qu'on y entend aussi Augustin Trapenard. L'application est disponible sur abonnement, mais elle est gratuite pour les 15 premières histoires à écouter. Il faut créer un compte sur le site almastudio.com avant d'utiliser l'application. Vous trouverez un lien à la page de Barbatruc sur franceinter.fr. Allez, comme promis, voici maintenant Denis Chessou, ses pépites de livres pour enfants de l'année 2020.
Dorothée Barba sur France Inter. L'as-tu lu, mon petit loup ?
À partir de 4 ans, La danse d'hiver de Marion Denbauer et Richard Jones aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors la neige a le pouvoir de susciter la curiosité des humains, mais aussi celle des animaux.
Un flocon de neige flotte dans l'air, virevolte, plonge, se pose sur le museau d'un beau renard.
Et finalement, comme pour les humains, soucieux de savoir quel manteau enfiler par exemple, elle sème le trouble dans l'esprit du goupil.
L'hiver arrive, que dois-je faire ?
Le renard peut dès lors compter sur les conseils de ses congénères, à commencer par ceux de la chenille laineuse.
Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante et tu te réveilleras en papillon de printemps.
Mais un renard ne se métamorphose pas en papillon. Donc le projet est compromis. La tortue lui fait une autre suggestion.
Plonge ta tête dans l'eau et nage en bas, là-bas, tout en bas, pour t'enfouir dans la boue glissante et fraîche.
Sauf qu'entre l'apnée et la boue, les conditions ne sont pas idéales pour le mammifère. Qu'en dit la chauve-souris ?
Zig et zag, descends droit dans une grotte, accroche tes pattes là et endors-toi.
Est-ce que l'ours sera, lui, la solution ?
Trouve-toi un sapin renversé et enroule-toi à l'abri entre ses racines.
Sauf que pour cela, il faut avoir sommeil, et ce qui n'est pas le cas de notre héros. Au détour d'un tronc d'arbre, il finit par faire une rencontre plus particulière.
Je peux te dire quoi faire.
Cette assurance provient d'un beau renard roux qui lui glisse ces quelques mots.
Quand un million de flocons emplissent l'air, virevoltant, tournoyant, valsant, toi et moi, on les imite.
Et suite à cette révélation, notre héros sait enfin quoi faire.
Ce que nous, beaux renards roux, faisons l'hiver, nous dansons.
Dans cet album pour les petits, qui reprend la structure bien connue de la randonnée en multipliant les rencontres avec notre héros,
goupil flamboyant au cœur d'une nature immaculée,
eh bien c'est la capacité à voir les changements du bon côté, à savoir savourer le silence troublé seulement par le vent, à s'électriser d'un froid glacial et vivifiant qui est raconté. L'aspect traditionnel des illustrations réalisées à la peinture est agrémenté par des jeux de textures qui permettent au livre de s'inscrire dans une intemporalité élégante. Tendre, rassurante, un album qui pourrait bien devenir un classique de l'hiver. La danse d'hiver aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est à partir de 4 ans. Dès 5-6 ans cette fois, Le Géant, la fillette et le dictionnaire de Jean Leroy et Stéphane Poulain aux éditions Pastel. Un marchand de dictionnaires approche d'une chaumière et un géant ouvre la porte.
Au secours ! Un ogre !
Et il fuit en lâchant son dictionnaire.
Le géant ne connaissait pas la définition du mot ogre, alors il ouvre le dictionnaire.
Ogre, géant légendaire qui se nourrit de petits enfants. Manger des enfants, ça alors, je n'y avais jamais pensé.
Et notre géant se dit que préparer un mijoté de petits enfants aux carottes, ce serait tentant.
Dans la narration d'ailleurs, on le nomme géant, jamais ogre.
Eh oui, car il ne mange que des légumes, enfin jusqu'à présent. Dans la forêt, il récupère une petite fille dans son épuisette.
Bonjour, dit le géant intimidé. Je ne parle pas aux inconnus, répond sèchement la fillette.
Le géant espère que ce n'est pas un produit de mauvaise qualité.
Quel est ton légume préféré ? Aucun, je les déteste tous. Moi, je n'aime que les bonbons.
Faut dire qu'elle s'est enfuie de chez ses parents qui ne voulaient plus lui en donner.
À quoi bon être un enfant si on n'a pas le droit de manger des bonbons ?
Alors de belles toiles, comme celles des grands maîtres avec des cadrages, Stéphane Poulain travaillant dans le détail, en costume d'époque, ça se marie très bien avec le style vif, rapide, goulu du texte de Jean Leroy. Le géant insiste, des fèves, des potimarrons, ça devrait te plaire. Et soudain, des soldats font irruption dans la chaumière.
Par ordre du roi, nous arrêtons tous les méchants mangeurs d'enfants.
Le géant pense à ses moutons qui resteront seuls s'il va en prison. Mais la fillette ne le dénonce pas.
Il avait emprunté mon dictionnaire, je suis venu le rechercher, tout va bien, merci.
Et pourquoi tu ne m'as pas dénoncé ?
Parce que moi, quand j'ai un problème, je le règle toute seule.
Finalement, il ne la mangera pas. Trop coriace. Alors elle regarde le dictionnaire. Coriace, sens numéro 1, dur, difficile à mâcher. Sens numéro 2, têtu.
Tu as raison, c'est tout à fait moi ça.
Le dictionnaire symbolique de la connaissance. Un géant qui tricote avec la laine de ses moutons. Une fillette au caractère affirmé qui s'en sort car elle est futée. Et puis, les histoires d'ogres qui n'en sont pas vraiment. Croyez-moi, ça plaît et vous serez très bon en le lisant à voix haute. Le géant, la fillette et le dictionnaire de Jean Leroy et Stéphane Poulain aux éditions Pastel à partir de 5-6 ans. Merci à Claire Destacan pour sa réalisation, à Lucie Cosmala pour sa coécriture, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. Rendez-vous sur le site de France Inter à la page de Barbatruc pour retrouver en entier les émissions dont vous venez d'écouter des petits morceaux et pour les références des livres de mes invités. Merci beaucoup à toute l'équipe de Barbatruc, Anne-Sophie Dazard et Mao de Butler à la préparation, Christophe Imbert et Claire Destacan à la réalisation, Antoine Cruchon à la technique aujourd'hui, Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale et les reporters Caroline Pommès et Juliette Proutot pour les précieuses paroles de gosse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin d'année. Adieu vos vaches, cochons, couvées et adieu 2020.